Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour les amis, comment ça va? Ah, attends, je retire mes chaussons. Hi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, petit stream du mercredi. Je voulais te remercier pour tes émissions et pour le fait que la rediffusion sur YouTube me permette de m'endormir pour mes siestes. Ta voix est très apaisante. Eh bien, écoute, très heureux que ma voix t'apaise. Très heureux. Et bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Hop, 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 hop. Est-ce que vous aussi vous êtes apaisé? Oh, une moustache, ouais, t'as eu. La stache mou. J'avoue, je suis apaisé. Eh ben, très bien. Backseat demain, j'ai hâte. Ouais, ça va être cool demain. Ça va être cool. Comment se porte le pot chicha? Le pot chicha va bien, elle est cachée sous mon lit comme d'habitude. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles particulières. Grosse actu. Pour le petit chat? Non. Pour Backseat, ouais. Ouais. Ah. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient eu des coupures de courant à cause de la tempête Kiaran. Kiaran. Je ne sais pas comment on doit prononcer. Le petit chat, tu l'as adopté ou t'es toujours famille d'accueil? Non, je suis toujours famille d'accueil. Je vais au concert d'Ava ce soir au Rex Club, j'ai trop hâte. Moi, j'y vais pas. Je pense que je vais pas y aller. J'ai pas la santé là pour aller clubber. On m'a proposé, mais non. Les Donation Goal, on en est où pour la traversée de l'Atlantique? Regarde bien à l'image. Je pense que tu peux avoir la réponse. Regarde bien. Les Donation, hein, ouais. Caché sous ton lit, il y a du progrès. Oh, pff, ouais, non, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'elle est cachée sous mon lit. Petite bouillotte et un plaid, pas besoin de chauffer. Même s'il fait 16 degrés dans l'appart. 16 degrés, c'est dur quand même. Il n'y a pas de chauffage au collège pour faire cours, c'est frais. Ugh. Terrible. Moi, j'ai eu une belle coupure de 7 jours, mais les équipes d'Enedis ont galéré. Trop d'arbres et de câbles à terre. Ouais, ouais non, c'est pour ça que je demande. Hein. Je me doute qu'il y en a plein qui ont eu des coupures de courant. Ou des coupures de téléphone ou d'internet. J'ai pas encore le chauffage non plus, mais ça va, on tient. Moi, le chauffage, il a été allumé, ça y est. Il y a du chauffage chez moi. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. On est content. Tu pourrais pas plutôt traverser l'Atlantique pour de vrai? Bah non, j'ai pas d'avion. Ouais, mais elle est passée combien de temps cachée dans ta cuisine? Le chat, elle est restée 4 mois dans ma cuisine. Après, je lui ai fermé l'accès à la cuisine, donc elle n'y a plus accès maintenant à la cuisine. Donc c'est pour ça qu'elle s'est cachée ailleurs, sous mon lit. Du coup, elle est plus proche de moi. Même mon petit frère au port de La Rochelle a été coupé une journée. Pourtant en centre-ville. Ah oui, en centre-ville de La Rochelle. Merci Ice pour ton resub. Merci Namatartar aussi pour ton resub. Merci John pour vos abonnements. Merci à vous. J'ai un énorme arbre centenaire tombé dans le jardin. Il aurait pu éclater toute la maison s'il était tombé 25 degrés plus à gauche. Oh! Putain, c'est flippant ça. Et du coup, tu vas faire comment? Tu vas appeler des bûcherons pour le gérer? Ma famille à Plougastel. Apparemment, le courant est revenu genre 1 heure avant l'arrivée du président. Tant mieux. Mais du coup, ça veut dire que le président, il devrait aller dans tous les villages où c'est coupé pour établir le courant partout. C'est dur quand même. Merci Pax Riri pour ton resub. Une pensée pour les fraises de Plougastel. C'est vrai ça, les fraises de Plougastel, elles sont comment? Elles vont bien? Je suis routier en Bretagne, j'ai roulé la veille et le lendemain de la tempête. J'ai jamais vu autant de camions Enedis sur les routes et d'arbres par terre. C'était impressionnant. Bah ouais, j'imagine. J'imagine, ça devait être impressionnant, ouais, il devait y avoir des camions Enedis partout. Mais d'ailleurs, il y en a toujours. Hein. La plupart des plantations ont été ravagées. Les plantations de fraises? Ah merde, c'est chiant. Attends, je vais retirer le mode lent. Merci, Trendre Drame, pour ton resub. Merci beaucoup. Macron, meilleur électricien que président. Il rétablit le courant. Il nous met au courant. Non, je sais pas, je cherche des jeux de mots, j'en ai pas là. J'ai pas trop d'idées. Je viens de parler de toi encore à ma nouvelle promo de L1 en droit, j'espère qu'ils ont été attentifs. T'es chargé de t'aider? T'es prof, t'es quoi? Il électrise le débat. Macron électrise le débat. Ouais. Carrément. Les huîtres aussi, ça va être compliqué. Il y en a beaucoup qui sont ensablées ou qui ont dérivé. Ah ouais, dans les parcs à huîtres? Ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Il y a des ostréiculteurs dans le chat pour nous informer de on en est où pour les huîtres. Les huîtres de Noël. Prof d'amphi, enseignant-chercheur contractuel, j'ai fini un doctorat en droit pénal avant l'été. On s'était vu à la TwitchCon vite fait. Ouais, maintenant que tu le dis, je me souviens. Je me souviens. Crise de l'huître. Ah oh là là, il n'y aura pas d'huître à Noël. Enfin, c'est surtout pour les ostréiculteurs que c'est chiant. Je laisse le stream en fond pour réviser mon cours sur les institutions suédoises. Oh, intéressant. Intéressant. Très intéressant. Bon, du coup, c'est un petit stream chillax du mercredi après-midi. J'ai pas vraiment de contenu prévu. Je propose qu'on discute tranquillement de tout, de rien, de ce dont vous voulez discuter. On peut faire aussi une simili FAQ politique si vous voulez, mais là, je suis pas trop dedans en ce moment. Ça se remarque sur le stream, mais j'ai pas tout à fait la santé mentale solide. C'est juste une mauvaise passe. Horrible les huîtres avant de boire de l'eau de mer, on risque moins d'être malade. Attends, horrible les huîtres, autant boire de l'eau de mer, on risque moins d'être malade. D'accord. Bah, ne t'en déplaise, on va continuer à en manger parce qu'on aime bien. Qu'est-ce que tu penses de la marche de dimanche, présence du RN, etc. Moi, j'en pense rien. Je sais qu'il y a eu un appel à manifestation contre l'antisémitisme dimanche, à l'invitation de la présidente de l'Assemblée et du président du Sénat, et le Rassemblement national a été invité, ce qui pose débat parmi les participants à la marche. Les trois quarts des ostréiculteurs sont touchés par la tempête Ciaran. Ah ouais? Est-ce que la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat organisent traditionnellement des manifs? Jamais, c'est jamais arrivé, c'est la première. Les présidents des chambres n'appellent pas à des manifestations d'habitude. Je déprime un peu pour rien aussi depuis dimanche. Courage Jean. Merci à toi, Aznaël. Merci beaucoup. Merci à toi et courage à toi aussi. Oh, ça doit être la saison. Hein. Et vous, est-ce que ça va? D'un point de vue sécurité des députés, il y a des dispositifs spéciaux, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment ça s'organise une manifestation pareille. L'automne et le mental, ça fait jamais bon ménage en général. Prenez du repos si vous en avez besoin tous. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est important de se reposer. C'est peut-être le moment pour tous de prendre les petits médocs, petits antidépresseurs si ça n'est pas fait. Ah bah si vous êtes suivi par un médecin psychiatre spécialisé, oui, suivez ses recommandations. Il y a des députés dimanche, ça sera peut-être leur première manif de leur vie. Ouais, c'est possible. Est-ce que ce serait possible avec un autre président et un autre gouvernement de faire descendre la retraite à 60 ans? Ah, tu peux même la faire descendre à 40 ans si tu veux, hein. C'est possible, c'est juste que ça coûte très cher. Donc faut trouver les moyens de financement d'une retraite à 60 ans. Mais l'enjeu, c'est pas la technicité, on peut changer l'âge légal de départ à la retraite, hein. Il y a une manifestation dimanche. Oui, il y a une manifestation contre l'antisémitisme. Est-ce que t'as vu que les collabs étaient en grève hier après-midi? Jouais, je l'ai appris. Les collaborateurs de parlement, de députés. Je propose la retraite à 20 ans, votez pour moi. Ouais, tu la finances comment? C'est le moment de piloter un avion quand on est fatigué. Oh, non, j'ai pas la tête à ça non plus. J'ai pas non plus trop la tête à ça, non. Si je gagne l'auto, je peux donner la totalité de ma somme à l'État. Si tu veux, oui. En finance, en faisant travailler les vieux. Et bien du coup, non. Le fait que la France insoumise ne vienne pas dimanche à cause du RN est pas un peu moyen, sachant qu'ils avaient déjà été dans la même manif que le RN lors d'autres occasions. Quelle occasion? À quelle occasion est-ce que la France insoumise a manifesté avec le RN? Jamais. À quel moment certains trouvent ça normal de défiler aux côtés de l'extrême droite? À quel point certains ont oublié l'histoire? Pour les attentats de Charlie, alors tu fais référence à la manifestation du 11 janvier 2015, à laquelle le Rassemblement national n'a pas participé. Marine Le Pen n'a pas participé. Ce qui lui a valu la fameuse question de Jean-Pierre Elkabbach, vous n'avez pas honte. La manifestation de ce dimanche est-elle un non-événement selon toi? Ben, j'en sais rien, je peux pas préjuger, elle n'a pas encore eu lieu. Est-ce que tu penses qu'on devrait réformer l'ONU pour retirer les vetos? Oh, ça, j'en sais rien. C'est une vaste question. Est-ce que l'ordre international est mieux représenté par l'ONU actuellement que d'une autre manière? Mais pour ça, pour réformer l'ONU, il faut faire mettre d'accord les États membres. Et les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas envie de lâcher leur siège. Quand ton chien est malade, t'es content d'avoir un droit de veto. Ouais. On aura qui comme chroniqueur jeudi soir? Il faut que tu ailles sur le compte Backseat sur Twitter et tu auras la liste des chroniqueurs demain soir dans Backseat. Claire, Antoine et Usul. Toutes les informations sont données sur le Twitter et sur l'Instagram aussi. Et sur le compte Blue Sky. Comment va le petit chat? Le petit chat va bien. Elle est sous mon lit comme d'habitude. Tu prends quel type de grain de café, plutôt Robusta ou Arabica? J'en sais rien. J'en sais rien. Je prends les grains de l'or. L'or absolu. De. Comment ça s'appelle? C'est le café qui s'appelle l'or. Je sais plus quel est le nom du cafetier. Merci Pipouts. Merci elle est mort pour vos resubs. L'or, c'est Maison du Café. Je crois que c'est Maison du Café, ouais. Tu prends les grains direct comme ça. Ouais, direct. Je vais les chercher chez le producteur directement en Colombie. C'est dégueu le Robusta. Je serais incapable de faire la différence. J'y connais rien au café. Comment ça se passe pour participer au Backseat du 23-11 à la Bellevilloise? C'est les membres du club Backseat qui vont recevoir un mail et une invitation. Ça fait partie des avantages à faire partie du club Backseat, d'avoir des invitations dans ce type d'événement. Donc tu peux rejoindre le club Backseat. Point d'exclamation qui se dans le chat. Et merci par avance pour ton soutien à l'émission. C'est grâce à vous. C'est grâce à vos dons qu'on réalise l'émission Backseat. Et c'est peut-être grâce à vous qu'on va réussir à financer l'émission sur toute la saison. On est à 20 000 euros par mois déjà de récolter et l'objectif c'est 30 000 euros. Le jour où on te sert un Robusta, tu le sauras. D'accord, bah je le saurai. Comment tu appréhendes ta future victoire des Worlds de LoL? Plutôt bien. Plutôt bien. Merci Broti pour ton resub, merci beaucoup. Merci à toi. Tu pourrais chercher tes grains de café directement par avion sur Flight Simulator jusqu'à la Colombie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, hier soir, pour ceux qui ont raté, on a fait un live avec Aurélien Porteau sur. Ça, c'est une émission qui s'appelle Le Jeu 2, où il fait des interviews de créateurs de contenu pour parler de jeux vidéo et de leurs jeux vidéo préférés. On a une soirée visionnage proposée à Lyon, je trouve ça cool comme concept, mais du coup en faisant ça, on est un viewer pour plein de gens. C'est pas nul pour vos chiffres revenus suite au visionnage. Non, c'est pas nul, peu importe. Tant que vous êtes nombreux à regarder l'émission, que ça se retrouve ou pas dans les stats, c'est pas très grave. Mais donc oui, si vous avez une invitation à Lyon, d'ailleurs, j'étais pas au courant d'ailleurs. Il y a une viewing party qui est organisée. J'ai pas les infos. Mais quand j'aurai les infos, j'en ferai de la pub. C'est sur le Discord, et bah très bien. Eh ben, n'hésitez pas, hein, s'il y a une viewing party de Backseat qui est organisée, n'hésitez pas à vous rendre dans le bar où c'est organisé. Hein. Je t'envoie les infos, ouais. Vas-y, Pemph. Demande aux gens d'allumer vos téléphones pour augmenter le nombre de viewers. Ouais, c'est l'autre technique. Alors, du coup, c'est quoi les infos? Viewing party de Backseat le 16-11 à Lyon au Puzzle Inn. Rendez-vous à 18h 278 rue de Créqui. Eh bah, trop bien. Bah, vas-y, je vais faire un tweet. Hein. Hop là, demain soir. Je fais un tweet, hein. Je fais un tweet pour annoncer la viewing party. Donc c'est bon, je peux l'annoncer, Pemph? Je suppose, hein. Annonce grand fou, allez, c'est parti. Allez, hop, c'est parti, c'est annoncé. Bah, j'espère qu'il y aura du monde à la viewing party des Lyonnais pour mater Baxi tous ensemble. Ça va être cool. Ça va être cool. Je serais très content qu'il y ait des viewing parties qui s'organisent dans les villes. Mais ouais, donc du coup, je vous disais hier, j'ai discuté avec Aurélien de Flight Simulator, de mon amour pour ce jeu contre-culturel qui est Flight Simulator. Et c'était très très cool comme émission. Je peux parler un petit peu du jeu, de ce que j'aime bien dans le jeu, et puis des autres jeux vidéo. L'excentricité de cette annonce, c'est fou. T'as vu, c'est fou, hein. Incroyable. Aurel le Goat. Ouais, il est super sympa, Aurélien. Il est super sympa et son émission est vraiment cool. Je réfléchis à un système pour centraliser les viewing parties. Ok. J'irais bien, mais je suis pas sûr que mon fils d'un an apprécie. Oh, bah tu peux venir avec ton fils, hein. Dans la poussette. Hésite pas. Mais en plus, on était déjà allé au Puzzle Inn. Attends, ça me dit quelque chose. Mais oui. Oui, c'est là qu'on avait fait la rencontre abonnée, ouais. C'est dans ce bar-là, ici. Le Puzzle Inn à Lyon, rue de Créqui. C'est dans ce bar qu'aura lieu du coup la viewing party demain. C'est un bar rétro gaming à l'étage, vous avez des canapés où vous pouvez jouer. Et au rez-de-chaussée, il y a un grand bar. C'est un bar gaming, ouais. Et bah très cool. C'est le 16, pas demain. Ah merde. Ah mais non, c'est le 16. Merde, 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 faut que je supprime mon tweet. Attendez. Pardon, pardon, pardon. J'avais pas du tout zappé que c'était le 16. J'ai supprimé mon tweet. Désolé. Putain, en plus, il me l'a dit. Je croyais que c'était demain. Pardon, j'étais en train de penser à l'émission de demain. Il faut faire quoi pour organiser une viewing party? Aller demander dans un bar. Exactement. Tu réserves un bar, tu me dis que tu as réservé le bar, et moi j'annonce. Tu vérifies avec le bar qu'ils sont OK, et moi j'annonce. Pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait. Eh non, non, je me suis planté, pardon. Non, effectivement, c'était le backseat dans 2 semaines. Et là, du coup, dans l'émission Backseat de demain, on a aussi annoncé nos invités. Exceptionnellement, demain, on aura une invitée politique pour la première partie également. Ce sera Raquel Garrido qui a accepté notre invitation pour venir nous expliquer ce qui se passe actuellement à la France Insoumise et pourquoi est-ce qu'elle a été mise à l'écart. Donc elle viendra nous l'expliquer, Raquel Garrido. Et ensuite, notre invitée politique demain, ce sera Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Avec qui on va discuter du coup de plusieurs sujets, notamment la loi immigration et l'article 3 dans les métiers en tension, la régularisation des travailleurs sans papier. Et on va parler aussi de la conférence sociale qui a été close il y a 2 semaines. C'est cool d'avoir Raquel. Ouais, c'est cool que Raquel ait accepté notre invitation. Et donc, ouais, on va discuter avec Marie-Lise Léon. C'est la première fois qu'on la reçoit. On avait déjà reçu son prédécesseur. On avait déjà reçu la CGT également. Et par ailleurs, oui, vous pouvez envoyer vos questions en vidéo. Si vous avez une question à poser à Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, n'hésitez pas à vous filmer et à nous envoyer la vidéo. Comme ça, on diffusera votre question posée à Marie-Lise Léon. Surtout, n'hésitez pas, envoyez vos vidéos. Il y a des élections syndicales en ce moment. Et en plus, il y a des élections syndicales en ce moment. Comment vous choisissez les invités de Backseat? En fonction de l'actualité et de leur disponibilité. Par rapport à Backseat, est-ce que vous pourriez indiquer les noms des invités dans la description du podcast, épisode complet? Ce serait bien pratique. Ah, bah écoute, c'est noté. C'est Pemf qui s'en occupe de la mise en ligne. C'est cool de la recevoir, Marie-Lise Léon, on la connaît pas encore très bien. Bah ouais, justement, elle est pas très connue du grand public, puisqu'elle, elle, ça fait moins d'un an, donc elle est à la tête de... Ça fait 6 mois, je crois, qu'elle est à la tête de la CFDT. C'est ce qu'on fait. Ah, c'est déjà annoncé? À propos de Raquel Garrido, j'ai pas compris. Elle n'a plus le droit pendant 4 mois de s'exprimer au nom de la France Insoumise, mais peut-elle s'exprimer en son nom propre? Eh ben, c'est une question que je lui poserai demain. Mais à mon avis, la réponse est oui. Elle a le droit de parler, hein, elle a le droit de s'exprimer. C'est toi qui choisis les chroniqueurs? Ouais, c'est moi qui choisis. De quoi? Les invités de la semaine? Non, c'est moi qui choisis les invités de la semaine avec mes coproducteurs, avec Quentin et François, qui sont mes coproducteurs de l'émission. On s'occupe de la programmation. Enfin, c'est surtout Quentin et François qui s'occupent de la prog. Est-ce que l'on parlera un peu de l'aide médicale d'État demain? Bah oui, du coup, puisqu'on va parler de la loi immigration. CFDT, la dame succède à Chérec, où j'ai loupé une présidence. T'as loupé plusieurs présidences. C'est pas grave. C'est justement Backseat, ça sert à te remettre à la page. Elle a le droit de s'exprimer, heureusement, sinon elle pourrait pas aller dans Backseat. Non, non, mais on peut pas empêcher un député d'aller dans une émission. Elle a été mise en retrait de ses fonctions d'oratrice pendant 4 mois. Du coup, Quentin et François, ils sont plutôt solides en politique. Ah bah oui, ils sont très solides en politique, oui. Bah oui, parce qu'ils s'occupent, ils sont coproducteurs de la meilleure émission politique qui soit. Alors forcément. Je comprends pas, il y a Raquel Garrido à Baxit demain et la dame de la CFDT. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Raquel Garrido nous rejoindra au début de l'émission. Enfin, pas dès le début, hein, au moment des sujets d'actualité, donc vers 20h. Et ensuite, Marie-Lise Léon nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission en tant qu'invitée politique. Pourquoi elle a été mise en retrait, je comprends pas trop. Bah, elle nous l'expliquera demain. Elle nous l'expliquera demain. Plusieurs invités OMG. Ouais. Demain, vous êtes gâtés. Demain, vous êtes gâtés. Il y a plusieurs invités. Et il y a aussi la première partie de l'émission. On va discuter. Notre invité de première partie, c'est Jérémy Perrin, qui est le réalisateur et le scénariste de Last Man et de Mars Express. Mars Express qui va sortir à la fin du mois. Ça va être cool. Je suis très content qu'il ait accepté de venir aussi, Jérémy Perrin. Je suis hypé de fou, ouais, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Ça va être trop bien. Raquel Garrido, c'est la femme de Manuel Bompard, c'est ça? Non, pas du tout. C'est la femme d'Alexis Corbière. Et puis, on s'en fout de ces liens maritaux. Ça a l'air trop bien, Mars Express. Dommage qu'il sortira pas à l'international. Je vais devoir attendre le DVD. Ouais. Raquel Garrido, c'est cool. Je la découvre lors de cette législature et je la trouve hyper pertinente dans ses interventions. D'accord ou pas d'accord avec elle, le débat est toujours intéressant. Raquel Garrido, c'est une députée qui est une historique de la France insoumise. Elle était là dès 2012 avec le Front de gauche. Donc ça fait 20 ans qu'elle défend. Enfin, ça fait. Oui, si, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'elle défend. Ça fait 10 ans, pardon, qu'elle défend la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et elle est surtout spécialisée sur la 6ème République, Raquel Garrido. C'est elle qui défend le projet de 6ème République défendu par les insoumis. C'est qui les chroniqueurs et les chroniqueuses? C'est toujours, comme d'habitude, c'est sur Twitter et sur Instagram et sur Blue Sky. On aura Antoine, Claire et Usul en chroniqueur de Baxit demain. Elle est avocate, Raquel. Ouais, Raquel Garrido, elle est avocate. Absolument. Pour la présidence de la République, on a besoin de connaître la situation matrimoniale. Comment on peut gouverner un pays si on n'arrive pas à faire l'unité dans sa famille? Je suis pas d'accord avec toi. La situation matrimoniale des élus n'a de sens que si ça éclaire d'un jour nouveau les prises de position qu'ils prennent. Mais les élus ont le droit à la vie privée, s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. S'il y a un conflit d'intérêt, alors oui, c'est utile que le public soit informé. Y a-t-il un invité politique demain? Ouais, rendez-vous sur Twitter et sur Insta. Est-ce qu'on aura toujours le même super présentateur de l'émission demain? Ouais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On devrait avoir plus de Quentin Lafay. Bah, Quentin Lafay, il est coproducteur de l'émission, donc rassure-toi. Quand tu regardes Backseat, tu as le droit à du Quentin Lafay, parce que c'est lui qui fait cette émission avec moi et avec François. C'est quoi déjà les paliers pour Backseat et le stream name? Regarde, c'est écrit là. C'est écrit là, et si tu fais point d'exclamation kiss-kiss dans le chat. Hop, tu cliques sur le lien, ça t'emmène sur la page du financement participatif de Baxit. Tu scrolles. Hop, tu as toutes les informations, combien ça coûte, tout ça, tout ça, tout ça. Et tu as les paliers, les prochains donation goals. On en est là, on en est à la traversée de l'Atlantique. Léa revient quand pour nous parler de son rassemblement aux USA? Bah, elle l'a déjà fait à la dernière émission. Léa est déjà venue nous répondre lors de la dernière émission. Information qui n'est pas précisée mais prouvée par des experts, en tant que donateur de Baxit, nous sommes plus beaux et nos performances sexuelles s'envolent. C'est vrai ça? C'est vrai. Quand vous êtes donateur de Baxit, vous avez plus d'orgasmes et des orgasmes plus intenses. Ça a été prouvé scientifiquement. Par Didier Raoult. Petite question que j'ai depuis un certain temps, c'est quoi la différence au final entre un amendement de suppression et un vote contre un article? C'est la même chose. Dans les deux cas, l'article est rejeté. Sauf que dans un cas, c'est un vote qui a lieu de toutes les façons, article par article, et dans l'autre cas, c'est un vote qui n'a lieu que si un amendement est déposé. M'en fous, je copule pas. Ah non, mais tu copuleras. Tu copuleras quand tu seras abonné à Baxit, c'est ça qui est bien. J'ai doublé mes performances de 4 à 8 secondes. T'es con. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas d'une manière générale à aller sur la page KissKissBankBank de Baxit. Vous avez toutes les informations. Toutes les informations qui vous sont données. Ainsi que cette magnifique vidéo de présentation.
Bonsoir.
Baxit, c'est un talk show d'actualité politique qui, depuis maintenant 3 ans, réunit chaque jeudi des dizaines, des centaines de milliers de jeunes, en comptant les vues des replays, qui s'intéressent à l'actualité politique. Baxit revient pour une saison 3.
Vous avez été boursière, Madame Retailleau ?
Non, je n'ai pas été boursière.
C'était juste une question.
J'ai une grosse moustache, mais j'ai une petite tête.
Salut les jeunes.
Abattez la citadelle !
J'aurais fait ni cette réforme, ni ce rapport avec les syndicats.
Sur ce plateau, l'immense bolchevique !
J'ai préparé une petite chronique. Elle s'appelle 5 minutes pour faire ban ta chaîne.
Je peux taper ma grand-mère à Mario Party. Je peux pas taper ma grand-mère à la lutte. C'est chiant, tu vois.
Comment être un bon patron, Hugo ?
Ah bah c'est...
Martinez.
Oui, chef. Discipline.
Angoisse profonde.
Et c'est quoi ?
Quoi poubé.
Bon, une fois que c'est pas une MST.
Petit message au passage.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est sais, n'importe t'avais. Quoi.
Ah, moi, je vois ma pisse. Hein.
Marlène Schiappa, on t'embrasse.
Cette émission Baxit est financée grâce à vos dons. N'hésitez pas à participer, vous aussi, à rendre possible la réalisation de cette émission chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur KissKissBankBank. Vous avez la possibilité de faire un don mensuel qui nous permet de continuer cette émission.
On n'a plus de lumière sur le plateau, mais ça va reviendre. Hein.
Je vais me faire ban tweet avec vos conneries.
Fermez-la au bout d'un moment.
Je vais montrer mon t-shirt Jadot.
Je revends un t-shirt si...
Oh, je n'ai jamais vu autant de personnes, les amis.
J'ai déjà assez d'emmerdements depuis une semaine.
Okay. Je suis écolo.
Première chose.
Arrête.
Bonsoir. Merci à toutes et à tous.
Ah, c'était un teasing incroyable.
Et voilà, petite vidéo de présentation de Baxit. Extrêmement cool, qui a été monté par Pemf et que vous pouvez retrouver donc sur la page KissKissBankBank. N'hésitez pas. Je comprends l'utilité politique du 49.3, mais ne faudrait-il pas en limiter le nombre d'utilisations par quinquennat? Non, parce que c'est pas par quinquennat qu'on réfléchit, c'est par session parlementaire. En l'occurrence, c'est un article de la Constitution qui s'examine, qui s'utilise dans le cadre du travail parlementaire, et le travail parlementaire se fait session par session. Mais il y a d'autres manières de le il y a d'autres manières de limiter l'usage du 49.3. Il est déjà limité l'usage du 49.3. Le gouvernement ne peut pas y avoir recours en continu. Je vois surtout des représentants de l'aile gauche dans la vidéo de presse, c'est dommage. Désolé. 149.3, c'est le shutdown s'il n'y a pas de budget du coup. Bah, le 49.3, il a un usage illimité sur les budgets, oui. Un par an plus tous les budgets. En ce moment, la limitation du cumul... En ce moment, dans la Constitution, vous n'avez pas le droit d'utiliser le 49.3 plus d'une fois par session parlementaire, hors loi budgétaire. Pour les lois budgétaires, il n'y a pas de limite. Merci Xavi KDO pour ton resub. Merci BZH. Merci Jeff. Merci Broti. Merci Fnocla. Merci Pipout pour vos abonnements. Merci à vous. Je me pose la question de comment te soutenir entre la chaîne et Backseat. Labo VIP est intéressant, mais je peux pas faire les deux. Qu'est-ce que tu préfères ? C'est pas moi qui sais, c'est vous qui savez. C'est vous qui choisissez soit de soutenir l'émission Backseat, soit de soutenir ma chaîne Twitch, ou les deux si vous avez les moyens. Mais je vous laisse à vous le choix entre préférer être abonné sur ma chaîne Twitch ou si vous êtes obligé de faire un choix entre les deux, c'est vous qui décidez. Pourquoi la moustache ? Pourquoi pas ? Vrai viewer soutient les deux. Bah non, ça dépend de ton pouvoir d'achat. Si t'as pas les moyens, je comprends que tu puisses pas soutenir les deux. Comment ça marche pour les sessions extraordinaires ? Pour les sessions extraordinaires, il y a 1,49,3 qui est possible par session extraordinaire. Mais bon, les sections extraordinaires, ça dure pas très longtemps. Les macronistes essayent de passer tous leurs projets impopulaires en loi budgétaire, non ? Tu fais référence à la réforme des retraites ? Mais de toute façon, par définition, une loi budgétaire, c'est une loi dans laquelle il y a beaucoup de réformes, puisque c'est dans le budget de la nation que se retrouve traduite la politique économique du gouvernement. Donc c'est pas spécifiquement les macronistes, hein. Pour le dire autrement, quand les insoumis seront au pouvoir, ils feront la même chose. Évidemment que le budget, c'est le support de l'ensemble de la politique du gouvernement. C'est même pour ça que le vote du budget symbolise qui appartient à la majorité et qui n'y appartient pas. En parler autour de soi, c'est déjà soutenir. Partager l'émission Backseat, c'est un des plus grands services que vous puissiez rendre. Partager l'émission Backseat sur les réseaux sociaux, en parler à vos proches, convaincre des gens de regarder cette émission, c'est de loin le meilleur soutien que vous puissiez apporter. Les insoumis au pouvoir. Ah bah s'ils arrivent à faire mieux. Si les insoumis arrivent à faire mieux et qu'ils arrivent au pouvoir, ils feront des budgets. Est-ce que s'abonner à Backseat, ça augmente le pouvoir d'achat ? Oui. Oui, c'est prouvé aussi. Vous gagnez de l'argent si vous vous abonnez à Backseat. Non, c'est faux. En l'occurrence, c'est faux. Vous gagnez mieux que ça. Vous gagnez le soutien à une émission extraordinaire. C'est toujours bien de rappeler que les autres partis utiliseraient ou ont utilisé les mêmes règles du jeu. Non mais c'est normal, c'est pas scandaleux en soi. Hein, quel que soit le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui traduit son pouvoir par des budgets. Chaque année, il y a un budget qui est voté. Il y a un budget de finances, il y a le budget de l'État et il y a le budget des caisses de la sécurité sociale. La participation au financement en l'occurrence. Est-ce que soutenir Backseat permet de retrouver l'être aimé ? Oui. Oui. Oui, oui, ça c'est garanti, ça. Est-ce que les crises à la France insoumise est dans la continuité d'une gauche qui se divise toujours et dilue les voix ? Ouais, on peut voir ça comme ça. Oui, on peut. Est-ce que tu penses que Bardella aurait plus de chance en politique s'il arrivait à se détacher du Front National ? S'il lançait son parti à lui ? Il a déjà un parti à lui, ça s'appelle le Front National. Pourquoi s'il s'en détacherait ? Il n'a aucun intérêt à se détacher du Front National, parce que pour l'instant c'est le Front National qui est en train de le rendre premier ministrable. Est-ce que ça serait pas plus simple, vu qu'il y a forcément des gros débats, de faire des budgets sur plusieurs années. Non, il y a un principe d'annualité budgétaire, tu refais un budget chaque année en repartant d'une base zéro. Par contre, il y a des projets de financement pluriannuel qui existent. Tu peux voter des lois pluriannuelles, on appelle ça une loi de programmation. Ça existe dans la défense, ça existe pour l'école. Il y a des lois pluriannuelles de programmation budgétaire. Mais en général, c'est pour ancrer des investissements, parce que par définition, les investissements, c'est pluriannuel. Mais tu as besoin de garder la main sur la possibilité de changer la perception des impôts ou les dépenses d'argent. Il y a même, je vous rappelle, il existe même les budgets rectificatifs en cours d'année qui permettent de modifier le budget en cours d'exercice. Rappelez-vous, pendant le Covid, il y a eu 3 budgets rectificatifs qui ont été votés la même année. Est-ce que le vote majoritaire, ce serait pas la prime au choix consensuel ? C'est exactement contre ça qu'a été créé le vote majoritaire. Si tu fais référence au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours qui a été mis par circonscription pour élire les députés en 58, c'est justement pour éviter ça et pour avoir des majorités stables. Heureusement, il ne faut pas rester stuck avec un budget inadapté. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Complètement. Quelle est la différence entre la chambre haute et basse aux USA? Les deux chambres sont élues au suffrage universel direct. Ouais, mais pas sur les mêmes, mais pas sur les mêmes modes d'élection. Aux États-Unis, les sénateurs sont élus, il y a deux sénateurs par État, alors que le nombre de représentants dépend de la taille de la circonscription électorale. Donc du poids des États en démographie. Je parlais du machin de la primaire populaire. Alors le machin, ça s'appelle le jugement majoritaire. Et c'est une méthode de vote qui permet de lutter contre l'abstention. Et non, ça ne permet pas de choisir le choix le plus consensuel. Après, consensuel dans ta bouche à toi, ça a l'air d'être péjoratif. Mais dans la bouche de beaucoup de démocrates, c'est plutôt une qualité d'être consensuel. Réussir à rassembler des majorités de consensus autour d'une personne, autour d'un candidat, autour d'un programme. Est-ce qu'il vaut mieux perdre une élection avec radicalité ou remporter une élection avec consensus? Ou avec compromis, pour être plus exact. C'est une question de choix. Perdre avec consensus. Tu peux aussi perdre une élection avec consensus, ça c'est tout à fait possible. Évidemment, c'est un faux dilemme, hein. Vous l'avez bien compris. Sans compromis, il y a 70 millions de programmes. Ah, ça, ouais, 70 millions de présidents de la République dans ce pays. Et 70 millions de sélectionneurs de l'équipe de France aussi. Gagner avec Confucius. Ah là là. Et 70 millions de virologues devenus experts en géopolitique. Oui, 70 millions de virologues, c'est vrai. On a tous une opinion très tranchée sur l'hydroxychloroquine. On sait tous ce que c'est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On embrasse Didier Raoult, hein, d'ailleurs. Je sais pas où il en est, je sais pas ce qu'il est devenu. Je m'en fous un peu, à vrai dire. Avec 70 millions d'experts en géopolitique également. Bah ouais, mais c'est ça la démocratie aussi, hein. C'est s'exprimer sur des sujets, parfois sur des sujets compliqués et difficiles, hein. Il va bien, il t'embrasse. Ah, ça fait plaisir. C'est quoi l'expertise actuelle sur Twitter, le Moyen-Orient? Ouais, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme. Je sais pas, moi je vais plus sur Twitter, en fait. J'ai arrêté Twitter, j'en ai ras-le-bol. J'ai vraiment l'impression que c'est un réseau social en fin de vie, sur lequel il y a que des gens gênants. Il y a même plus l'humour que j'aimais bien sur Twitter, qui me faisait marrer. L'humour un peu pince sans rire, un peu grinçant, l'humour cynique, l'humour noir. Pourquoi est-ce qu'en démocratie, il n'y a pas un package de connaissances à valider avant de voter pour donner son avis? Bah parce que tu risques de pas le valider, toi. Non, mais blague à part, non, le principe de la démocratie, c'est qu'une personne égale une voix. C'est à partir du moment où tu es une personne que tu es légitime à t'exprimer en démocratie. Tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme, tu n'as pas besoin de... C'est pas un examen de connaissances, la démocratie, c'est un examen de volonté. Tu as le droit d'avoir des volontés politiques indépendamment de ton niveau de connaissance des sujets. Et de toutes les façons, dans tous les pays où on a mis en place des restrictions au droit de vote, quelles qu'elles soient, donc des contrôles de connaissances, des inscriptions sur des listes électorales, ce genre de trucs, ça n'a eu qu'un seul et unique effet, c'est d'éloigner les pauvres du vote. Alors si on trouve qu'il y a encore trop de pauvres qui ont le droit de vote, et qu'on veut avoir un vote entre bourgeois, entre personnes qui maîtrisent le droit constitutionnel, etc., alors à ce moment-là, oui, faisons un contrôle de connaissances. Ça devient un élitisme et c'est plus une démocratie. Quand on est attaché à la démocratie, on est attaché à l'expression « une personne égale une voix ». Et la voix d'un prix Nobel d'économie vaut le même poids que la voix d'un Pékin moyen. Ou alors on élimine la pauvreté. Ouais, ou alors on crée l'école. C'est pour ça que ça a été créé, l'école, au 19e siècle. C'était dans une vision démocratique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle avant de soutenir Brexit. Exactement. Tu nous décris là une technocratie. Non, une technocratie, c'est le pouvoir aux experts. Go donner le pouvoir à l'INSEE et à l'INSA. Oh là là, l'enfer. Véritable question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a encore sa place dans la sphère politique française ? Bah évidemment. Il est le leader d'un des plus gros partis de ce pays. Pourquoi il aurait plus sa place ? C'est pas parce qu'il n'est pas député qu'il n'a pas de l'influence. Vous voyez la différence entre avoir du pouvoir et avoir de l'influence ? Sauf si on considère que le pouvoir est un moyen d'agir sur les autres. Ah bah la preuve que Jean-Luc Mélenchon, il a le pouvoir d'agir sur les autres, au sein de son propre camp. Au sein de son propre camp, évidemment. Il se repose en attendant 2027. Ah moi je pense que Jean-Luc Mélenchon veut être candidat en 2027, à nouveau, oui. Oui. Pareil pour De Villepin ? Non, De Villepin, il n'est pas candidat. C'est le leader actuellement ? Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader de la France insoumise. Est-ce que des personnalités peuvent émerger pour 2027 à gauche, hors Ruffin ? Pourquoi tu sors Ruffin de l'équation ? Oui, c'est possible qu'il y ait des personnalités qui émergent d'ici à 2027. Hein. Je vous rappelle que Emmanuel Macron, il a été élu moins d'un an après la création de son parti. C'est la preuve que dans ce pays, on est capable de faire émerger des figures assez rapidement, y compris des figures pas très connues. Pardon. Si Mélenchon ne se représente pas en 2027, qui prendra sa place, Ruffin ? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, la France Insoumise n'a pas de mécanisme de désignation du candidat. Le scrutin au suffrage universel du président n'est-il pas une hérésie ? Ah, une hérésie, carrément. Par rapport à quelle autorité religieuse ? Plus elles émergeront plus tard, plus elles ont de chance. Ça dépend, ouais, t'as effectivement l'argument de dire qu'une campagne électorale, ça fatigue, et que plus tu es long dans ta campagne électorale, plus tu risques de faire des sorties de route et de décevoir. Et donc, le caractère sprint qu'a fait Emmanuel Macron est quelque chose qui est plutôt validé. Visiblement. Les personnes qui partent de loin ne réussissent pas à être élus président de la République. Les deux meilleurs exemples étant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui eux ont été candidats longtemps et qui n'ont pas réussi à remporter le second tour. Sauf Mélenchon qui a fait une campagne longue pour le coup. Et il n'aura pas échappé à ta sagacité que Jean-Luc Mélenchon n'a pas remporté l'élection présidentielle. Ni en 2012, ni en 2017, ni en 2022. Mitterrand en 88 pour sa réélection. Ouais, mais alors c'était différent parce que Mitterrand, il sortait d'une cohabitation. Donc c'est pas tout à fait pareil. Quand t'es un président non gouvernant, donc un président en cohabitation, c'est plus facile d'être élu. Enfin, tu représentes l'opposition en même temps, donc c'est sûr. C'est quoi la sagacité ? La sagacité, c'est la capacité à percevoir. Je crois. Parle-t-on d'un plafond de verre à gauche comme on le fait pour l'extrême droite ? Bah oui, on peut parler d'un plafond de verre. Jean-Luc Mélenchon a, semble-t-il, atteint un plafond de verre entre 2017 et 2022. Et pour dépasser le plafond de verre, il faut faire un travail long et difficile. que la France insoumise s'efforce de faire, semble-t-il. Est-ce qu'ils parviennent à convaincre davantage d'électeurs? Ben ça, c'est les scores aux élections qui le disent. Finalement, les cohabitations, à chaque fois, il y avait Chirac dans l'équation. En bourreau la première fois, en victime la seconde fois. Exactement. Chirac, champion des cohabitations. Tout à fait. C'est dingue, ça, j'avais jamais fait attention pourquoi il n'a pas changé de fusil d'épaule sur ses 3 essais Mélenchon. Depuis l'élection de 2012, il était installé comme figure incontournable, pourquoi ne pas faire de campagne courte? Bah, lui te répondrait que c'est précisément parce qu'il fait pas de campagne courte qu'il arrive à faire ces scores-là. Toi, ce que tu veux dire, c'est que si Jean-Luc Mélenchon se déclarait tardivement candidat à l'élection, il aurait moins de mal à remporter l'élection, à arriver au second tour? Je cherche partout, je ne vois pas le rôle de Mélenchon à la France insoumise. Tu parlais de leader emblématique, fondateur. Mais t'as pas besoin de chercher où que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader de la France insoumise. La France insoumise est une organisation politique qui a un leader qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il a été son candidat naturel à 3 élections présidentielles successives. Est-ce qu'on n'est pas dans une stratégie chez la France Insoumise de tout ou rien? J'ai l'impression qu'ils sont dans leur autodestruction. Pourquoi s'obstiner dans une stratégie politique? Mais parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec toi sur l'analyse, sans doute, de la stratégie. Jean-Luc Mélenchon, quand on lui pose la question, lui, il estime que sa stratégie, elle est victorieuse, puisqu'il a augmenté son nombre de voix entre 2017 et 2022. Donc selon la logique de Jean-Luc Mélenchon, s'il continue sur cette ligne de montée, en 2027, il arrivera au second tour de l'élection présidentielle. Et si on suit sa logique, il remportera l'élection présidentielle au second tour. Merci Monsieur Fritz, merci Etiko, merci Patsushi, merci pour vos resubs. Merci à vous. Est-ce que c'est pas dommageable pour la NUPES que le leader de la France Insoumise ne soit pas député et donc ne travaille pas directement avec les représentants des autres partis? C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Ça, il faudrait demander aux membres de la NUPES à l'Assemblée nationale, s'il trouve que c'est dommageable que Jean-Luc Mélenchon ne soit plus président du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Chirac est mort en 2019. Ouais. Cette information est juste. Il va quand même pas se représenter en 2017, Mister Mélenchon. Bah si. Enfin, si, il a l'air bien parti pour le faire. J'en sais rien, moi je connais pas, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas où ça va aller. Toujours est-il que la France Insoumise, en l'état actuel des choses, n'a pas de processus interne qui permet de désigner un candidat alternatif à Jean-Luc Mélenchon. Au demeurant, les autres partis non plus. Hein. Les autres partis choisissent, en fonction de l'élection, quelle est la méthodologie pour désigner leur candidat à l'élection. Hein. Est-ce que le fait que Jean-Luc Mélenchon ne se soit pas présenté aux législatives de 2022 est selon toi une grave erreur pour 2027 et même pour la France insoumise? Non, je pense pas que ce soit si grave que ça, que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas n'ait pas été candidat en 2022 aux élections législatives. Je pense pas que ce soit un handicap. Je pense que les électeurs s'en branlent de savoir si leur candidat à l'élection présidentielle a été député ou pas. Est-ce que c'est possible de créer un parti sans figure de proue avec juste un programme et un collectif? Ouais, il y en a plein qui font ça. Il y a plein de partis qui font ça. Après, un parti politique, par définition, ça sert à présenter des candidats aux élections. Donc, mais après, il y a des partis qui sont anciens et qui ont vu se succéder des leaders les uns après les autres. Le Parti communiste, le Parti socialiste, les Républicains, c'est des vieux partis qui ont eu des dirigeants successifs. Tu peux changer de leader charismatique dans ton parti, tu peux évoluer. Est-ce que les députés insoumis peuvent changer de groupe en cours de mandat ? Oui, et pas que les députés insoumis. Tous les députés ont la liberté d'adhérer à un groupe s'ils le souhaitent et si le groupe est d'accord. Un système politique où l'on vote pour un groupe et non pour, pour une seule personne, bah ça s'appelle le scrutin proportionnel ou le scrutin de liste. Par exemple, aux élections municipales, je vous rappelle que vous votez la plupart du temps sur un scrutin de liste. C'est ça un groupe, c'est une liste. Aux élections européennes, vous votez pour une liste. Ça s'appelle une élection proportionnelle. Certains macronistes avaient d'ailleurs créé un groupe de dissidents au cours du précédent quinquennat d'ailleurs. Oui, au cours du précédent quinquennat, il y a eu un groupe éphémère d'écolos qui s'appelait Écologie, Démocratie, Solidarité, qui avait été créé par des députés sortis de la majorité macroniste. Et pourquoi pas la même chose avec le président et le gouvernement ? Parce que le président, c'est une seule personne, donc tu peux pas faire un scrutin de liste quand il y a un seul siège. Et le gouvernement, lui, il dépend de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça dépend du résultat des élections aux élections législatives. Qui vois-tu pour représenter la droite et la gauche en 2027 ? Mélenchon, Ciotti ? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, je constate que Jean-Luc Mélenchon a l'air bien parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Après, il peut se passer plein de trucs d'ici à 2027, donc on verra. Et pour la droite, je sais pas. Éric Ciotti n'a pas envie d'être candidat, il préfère laisser Laurent Wauquiez y aller. Je pense que Laurent Wauquiez va être candidat, ouais. Je pense que Laurent Wauquiez va être candidat. Mais c'est vrai que les Républicains, en ce moment, c'est pas la joie. Il date Wauquiez un peu. Écoute, c'est charge à lui de réussir à devenir un candidat naturel avec une épaisseur politique, etc. Pour l'instant, Laurent Wauquiez, il est président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les Républicains vont se refaire une santé aux européennes. Ça dépend qui ils choisissent en tête de liste, ça dépend qui ils mettent sur leur liste, je sais pas. Mélenchon avait dit « faites mieux » lors du discours après le premier tour, donc il ne va pas se représenter. Ça, j'en sais rien. Peut-être que c'était son état d'esprit le soir du premier tour, mais Jean-Luc Mélenchon, il peut changer d'avis. Hein. Il l'a déjà fait par le passé. Rien n'empêche Jean-Luc Mélenchon de changer d'opinion entre le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 et l'élection présidentielle de 2027. Il a le droit de changer d'avis. Il n'y a pas Édouard Philippe à droite qui va se représenter ? Bah, Édouard Philippe, la question, c'est de savoir s'il récupère... l'investiture de Renaissance ou pas. Jean-Luc Mélenchon, il va sûrement attendre d'être plus proche des élections et de ce que disent les tendances dans les sondages. Pourquoi l'opinion publique en France se fout des galères judiciaires mais pas des choses plus subjectives ? Parce qu'il y a plein de gens dans l'opinion publique qui jugent que la condamnation de Jean-Luc Mélenchon par la justice n'est pas un obstacle à ce qu'il devienne un jour président de la République. Et c'est pas le seul, pour le coup. La Macronie peut-elle et va-t-elle éclater ? Ça, j'en sais rien, j'ai toujours pas de boule de cristal. Est-ce qu'elle peut éclater ? Oui, elle peut éclater, puisque la Macronie, elle a l'immense avantage et l'immense inconvénient en même temps d'être liée au destin politique et au parcours politique d'un seul homme qui est Emmanuel Macron. Donc par définition, ça dépend de ce que devient Emmanuel Macron. Faut investir. Ouais, non, c'est mort. Non, c'est mort. Hmm. Macron qui se retire de la politique peut-il devenir chroniqueur sur Backseat? Je pense qu'il a pas assez de culture numérique pour venir sur Twitch. Emmanuel Macron, Premier ministre en 2027, possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il peut devenir Premier ministre. Il adore les gamers. Il a pas assez de culture internet. Ouais, non. Non, 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 mais c'est pas péjoratif. Hein. Emmanuel Macron n'est pas un passionné de culture numérique. Hein. Il fait pas partie du peuple d'internet. C'est pas son truc. Emmanuel Macron viserait plutôt la présidence de l'Europe plutôt qu'un poste de ministre en France. Il n'y a pas de présidence de l'Europe, ça n'existe pas. Il y a président de la Commission, il y a président du Conseil. Peut-être président du Conseil, ouais. Ça pourrait lui aller. J'en sais rien. Je sais pas. C'est vrai qu'on avait dit à l'époque, quand le poste de président du Conseil avait été créé par le traité de Lisbonne en 2008, on avait soupçonné Nicolas Sarkozy de souhaiter prétendre à ce poste-là après sa présidence. Mais bon. Comme il avait perdu l'élection présidentielle en 2012, ça a été une fin de carrière pour Nicolas Sarkozy. Pour toi, le fait que Valérie Pécresse ait fait moins de 5% aux élections de 2022 est-il dû au personnage peut-être pas assez fort? Était-elle une figure pas assez forte pour les Républicains qui était un grand parti? Non, je pense pas que ce soit une question de force des personnages. En l'occurrence, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo étaient les candidates de deux partis politiques historiques. Or, il se trouve que les Français rejettent de plus en plus les grands partis politiques lors des élections nationales. Donc, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont payé le prix sur leur candidature de leur étiquette et de leur parti politique jugé trop ancien, trop vieille France, pas assez moderne. Si vous regardez les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, vous constatez que les trois partis qui se sont démarqués de très loin au premier tour, ce sont trois partis politiques relativement... Non, c'est pas des partis politiques nouveaux, mais ce sont des personnages politiques qui sont vus comme l'incarnation d'un renouveau. Ce qui peut être paradoxal d'ailleurs. Mais on avait Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est eux les trois grands partis politiques désormais. Et les autres anciens grands partis politiques que sont le Parti Socialiste et les Républicains ont été remisés en dessous des 5%. Si les Français rejettent les grands partis politiques, c'est la voie royale pour Édouard Philippe. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et un vote utile aussi au premier tour. Ah bah après, il y a aussi sûrement beaucoup de gens qui ont voté utile et ça a donné des voix qui ont manqué pour Valérie Pécresse comme pour Anne Hidalgo. Mais je les mets vraiment dans le même sac volontiers les deux parce que, non pas idéologiquement parce qu'elles sont pas d'accord politiquement, mais je les mets dans le même sac parce qu'elles étaient toutes les deux portées par un parti politique vu par les électeurs comme pas assez nouveau, pas assez novateur. Trop traditionnel. La stratégie de Philippe en créant un parti d'élus locaux est intéressante, il veut ainsi combler la faille de l'ancrage local du macronisme. Absolument. Et je pense que c'est effectivement une force pour Édouard Philippe, pour les élections intermédiaires sans doute. Mais alors après, est-ce que les Français, lors d'une élection présidentielle, en ont quelque chose à foutre de savoir s'il y a beaucoup d'élus locaux dans ton parti ou pas? Je suis pas sûr. Le président avait parlé de changer le mode de scrutin, on a des news de ça? Non, il n'y a pas de nouvelles. Et puis d'ailleurs, non, Emmanuel Macron n'avait pas proposé de changer le mode de scrutin du président de la République, de l'élection à la présidence de la République. Ça reste un scrutin majoritaire, uninominal à deux tours. Édouard Philippe assume la vision européenne à 100%. Ouais, mais pour le coup, il est sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. Il se différencie pas d'Emmanuel Macron. On peut pas faire une présidentielle à la proportionnelle? Bah non, puisqu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Quand il y a un seul siège à pourvoir, on ne peut pas faire des listes. On peut proposer qu'un candidat. Toujours rien en ce qui concerne la reconnaissance du vote blanc. Non, toujours rien. Pour la droite, Philippe, c'est un Macron en moins mou. Ouais. Je suis pas sûr que... Alors, les électeurs de droite, à mon avis, peuvent être séduits par Édouard Philippe. En revanche, les partis de droite, je suis pas persuadé. Je pense que les Républicains, ils sont toujours en bisbille. Pourrait-on faire un scrutin basé sur un programme et non sur une personne? Bah non, c'est difficile parce qu'il faut bien une personne pour l'incarner, le programme, et pour l'appliquer. La démocratie s'exprime par le choix des personnes. Et par là même, des programmes qu'elles portent. Mais un programme, il est porté par une personne. Vous ne retenez aucune leçon et vous pleurez tout le temps. Eh bah, hésite pas à nous la donner, ta leçon. On sera très heureux si tu veux bien éclairer nos lanternes. Merci Glotte pour ton resub. Merci Monsieur Frit pour ton resub aussi. Merci Etico pour vos abonnements. Merci à vous pour votre soutien. Un vote obligatoire serait-il envisageable avec l'augmentation du taux d'abstention? Oui, c'est envisageable. Après, enfin, bon, le vote obligatoire, à part faire chier les pauvres, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça le problème du vote obligatoire. C'est que c'est juste coller des amendes et des complexités administratives aux pauvres. C'est un peu une lubie, ce truc-là. Et on ne me fera pas croire que les Belges, parce qu'ils ont le vote obligatoire, c'est un pays plus démocratique que le nôtre, où les Belges sont plus satisfaits que nous du système politique belge. Faudrait faire attention à pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un peu trop facile. Le vote obligatoire, c'est contourner les vrais problèmes. Le vote obligatoire, ouais, pour moi, c'est un peu comme l'uniforme à l'école, quoi. C'est essayer de se convaincre artificiellement que les choses vont bien. Je confirme en tant que Belge. Ouais, non mais voilà. Oui, mais après, les gens, ils sont pas contents des résultats des élections alors qu'ils ne votent pas. Mais ils ont le droit d'avoir une opinion. Ils ont le droit d'avoir une opinion et de ne pas participer aux élections s'ils ne le souhaitent pas. On a le droit de penser qu'aucun candidat n'est valable et de ne pas être content. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. On a parfaitement le droit. De la même manière qu'on a le droit de voter blanc, hein, si on est satisfait par personne. On a le droit de voter blanc. Avoir le droit de voter est un choix démocratique. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. À quand la reconnaissance du vote blanc? Bah, on n'a pas encore trouvé de solution à la question de savoir si jamais le vote blanc est majoritaire. Unanimitale, je voulais dire que si les gens peuvent mettre plusieurs noms dans l'enveloppe et qu'ensuite on regarde le pourcentage qui est majoritaire. Alors ça, si tu peux le faire, ça s'appelle le jugement majoritaire. C'est ce qu'avait expérimenté notamment la primaire populaire en 2022. Changement des candidats et réélection si blanc majoritaire. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Au nom de quoi est-ce qu'on empêcherait un candidat d'être candidat? Et du coup, ce serait qui les candidats suivants ? Sur la base de quoi ? Sur la base de quelle légitimité démocratique est-ce que... Du coup, ça veut dire qu'on mettrait en place une stratégie où quand on sent que le vote majoritaire risque d'être un vote blanc, on se dédie du premier tour en disant « t'inquiète, ça va éliminer tous mes adversaires politiques et comme ça, je pourrais me présenter à l'élection suivante ». C'est pas parce que le vote blanc est reconnu que l'abstention n'a plus de sens politique. Oui, en plus, c'est vrai, je suis d'accord. Et s'il y a re-vote blanc majoritaire, on fait quoi ? Ouais, c'est vrai, on fait quoi ? Pour une élection municipale, si jamais le vote blanc est majoritaire ? Moi, je propose, pour une élection municipale, si le vote blanc est majoritaire, la commune est placée sous la tutelle de la préfecture. Ça, les électeurs, c'est vous qui voyez si vous voulez vraiment voter blanc. Pareil pour la présidence de la République, tiens, on va faire ça. Si le vote blanc est majoritaire, la présidence est assurée par le Conseil d'État. Alors là, bah tiens, ça, les technocrates vont être contents. Il va y en avoir du costume cravate. Pourquoi c'est pas cool la tutelle préfecture ? Non, c'est pas cool la tutelle préfecture. Les préfets, ils sont pas du genre à faire des réunions publiques, des délibérations, des... vote de texte et de délibération en conseil municipal. Ça, ta piste cyclable, tu peux l'attendre longtemps si c'est le préfet qui s'en occupe. Le préfet, il a qu'un seul objectif, c'est la sécurité. Pas d'emmerdement. C'est l'arbitraire. Ah bah c'est le... Oui, c'est la fonction publique, quoi. C'est un super fonctionnaire, quoi. C'est un super fonctionnaire qui dirige la mairie. À la place des personnes choisies par les électeurs. D'ailleurs, ça me soulève une question. Le préfet, il représente l'État ou le gouvernement ? Il représente l'État, gouverné par le gouvernement. Il représente l'État. C'est un fonctionnaire qui représente l'État central dans les territoires, en l'occurrence dans le territoire du département, ou de la région pour les préfets de région. Le préfet, il est nommé par le président ? Non, par le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui gère la préfectorale. Après, non, les nominations de préfets, c'est par décret en Conseil des ministres, je crois. Je sais plus. On pourrait imposer que le nouvel élu ne soit pas du même sexe que l'élu précédent. Donc Jean-Luc Mélenchon aurait l'interdiction de se présenter en 2027. Pourquoi pas ? L'idée du vote blanc, ce serait pas d'influer sur le résultat, mais de différencier les abstentionnistes qui ne s'intéressent pas à la politique des votants blancs qui ne se sentent pas représentés par les candidats. Mais ça, je suis désolé, là, tu es en train de proposer des lectures à l'abstention. C'est-à-dire, tu es en train de faire parler des gens qui ne parlent pas. En disant, bah, son silence veut dire que. Non, non, son silence, il veut pas dire que. Son silence, c'est un silence. Tu ne peux pas faire parler à leur place les abstentionnistes. Et pareil pour le vote blanc. Le mec qui vote blanc, c'est parce qu'il trouve que... Non, 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 c'est pas parce qu'il trouve que quoi que ce soit. Tu peux pas lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. C'est trop facile. Sinon, on fait un tirage au sort. Sinon, on fait un tirage au sort. On peut pas faire parler les votes non plus. Ah si, 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 on peut faire parler les votes. Bah si, un vote pour, c'est un vote pour. Une personne qui a mis dans l'urne un bulletin avec le nom machin dessus, C'est une personne qui a mis dans l'urne un bulletin avec le nom de machin dessus. Après, la question de savoir s'il l'a fait par vote utile, par conviction, de savoir si c'est sa femme ou son voisin qui l'a convaincu, ça, à la limite, c'est pas important, en fait. Le fait est qu'à la fin, il y a des bulletins avec des noms dessus. C'est l'argument des mélenchonistes, on ne sait pas si les gens ont voté utile ou par conviction pour Jean-Luc Mélenchon. Et à la limite, peu importe, il y a 22%. 22% des électeurs du premier tour ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Quelle légitimité donner aux avis des abstentionnistes post-élection ? Mais moi je maintiens que le fait de participer ou pas à une élection ne vous départit pas de votre droit à être d'accord ou pas d'accord avec la politique qu'il y a. Vous avez le droit de vous abstenir, et vous avez le droit, même si vous êtes abstentionniste, d'apprécier ou pas la politique qui est menée. Est-ce que le système de vote de la primaire populaire serait plus précis ? Le jugement majoritaire, il n'y a pas de règle du jeu idéale. Il n'y a que des règles du jeu. Toutes les règles du jeu ont leur avantage et leur inconvénient. La manière qu'on a de comptabiliser les bulletins dans une urne, ce sont des choix. Il n'existe pas de système électoral pur et parfait qui serait mathématiquement parfait et sous-entendu dans lequel on serait obligé de reconnaître la même légitimité qui serait plus pur que n'importe quel autre système d'élection. Non, tout système d'élection a des avantages et des inconvénients. On peut le montrer mathématiquement d'ailleurs que ça n'existe pas. Ben c'est le paradoxe des statistiques. Les statisticiens connaissent ça très bien. C'est vous qui. Il y a plusieurs manières de regarder un tableau statistique. Et ben c'est pareil, une élection, c'est une statistique, il y a plusieurs manières de le regarder. Est-ce que tu penses qu'il faudrait rendre obligatoire le vote ? Moi, mon opinion à titre personnel, c'est non, je ne suis pas pour le vote obligatoire. Je considère que ça sert juste à faire chier les pauvres, le vote obligatoire. Et j'ai pas envie de rajouter des amendes aux personnes pauvres sous prétexte qu'elles font pas leur devoir de citoyen, mon cul. Mais c'est mon opinion. Et on peut ne pas être d'accord avec mon opinion, il n'y a aucun problème. Tu sous-entends que c'est les pauvres qui ne votent pas ? Bah, si on regarde la sociologie des abstentionnistes, plus on est pauvre, plus on a tendance à être abstentionniste. C'est pas moi qui fais les stats, hein. Disons que ce serait facile pour moi, petite tronche de Sciences Po parisien, de 35 ans, de dire que la mère de famille célibataire qui habite dans les quartiers nord de Marseille, elle doit payer une amende. Parce que moi, Jean Massier, la politique, je la respecte et je vote, alors que elle n'a pas voté. Donc elle doit payer une amende, cette connasse. Bah, je trouve ça trop facile et je trouve ça dégueulasse, par ailleurs. En Belgique, ça marche ? Mais non, en Belgique, ça marche pas. En Belgique, ça marche pas. Les Belges, je sais pas quelle idée vous vous faites de la Belgique, mais le système politique belge n'est pas un système parfait, les Belges en sont très mécontents. C'est bien la preuve que rendre le vote obligatoire ne fait même pas illusion. On essaye de se forcer en se disant que bah, puisque les Belges votent, alors ça veut dire que c'est une démocratie qui marche. Sauf qu'en fait, non, ça ne marche pas. Les Belges ne sont pas du tout satisfaits de leur système politique. Là, on est vraiment dans un biais cognitif, on a l'impression que l'herbe est plus verte à côté. Les Belges, ils ont un système génial. Les Suisses, ils ont un système génial. L'Europe du Nord, ils ont un système génial. Non, pas du tout. Les gens ne sont pas satisfaits dans ces pays-là non plus. Je dis pas que l'herbe est moins verte et que leur système, il est pourri. Je dis juste, et sous-entendu que le nôtre serait meilleur, je dis juste qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système. On choisit ses arguments en faveur ou en défaveur du système dans lequel on est. C'est surtout des rencontres. Et oui, c'est bien vrai. Et l'idée d'un vote pondéré au lieu d'un binaire, qu'en penses-tu ? Ça, c'est le vote préférentiel. Mais moi, je suis pas fermé à l'évolution des systèmes de vote. Par contre, je maintiens que la crise de la démocratie n'est pas un problème qui appelle à une solution d'ordre mathématique ou technique ou technologique. Je suis pas technosolutionniste. Je ne pense pas qu'en changeant notre mode de scrutin, en un claquement de doigts et juste avec cette bonne mesure, notre système va devenir meilleur. Ça, je n'y crois pas du tout. Je suis pas du tout. Je trouve ça un peu technosolutionniste de se dire mais c'est facile. Il suffit de changer les méthodes du vote et hop, la politique sera meilleure. Non. Ça marche pas comme ça. On a des problèmes d'inégalité, on a des problèmes de défi climatique, on a des problèmes de débat public, on a des problèmes de laïcité, on a des problèmes beaucoup plus complexes, et que c'est l'ensemble de cette complexité de notre corps social qui rend la politique telle qu'elle est. Et c'est pas en changeant un paramètre dans le moteur qu'on va rendre le moteur plus performant. Ça pourrait y contribuer, peut-être, c'est pour ça que c'est pas inintéressant dans l'absolu, mais je trouve qu'on passe un temps considérable à discuter de la méthodologie du vote avant de s'attaquer au problème plus profond qui est celui de l'inégalité, qui est celui de la qualité de la représentation, de l'offre politique, des personnes qui portent cette offre politique. C'est pas la méthode, mais le contenu qu'il faut changer. Il y a plein de problèmes qui sont intriqués les uns dans les autres. Il y a plein de problèmes qui sont intriqués les uns dans les autres et on ne peut pas résumer ça à un seul problème. C'est comme dire que le problème, c'est la communication autour d'une et non la décision qui a été prise. Ouais. Le problème, c'est aussi le désengagement militant. Et le problème, c'est aussi le désengagement militant. Il ne vous aura pas échappé que les Français ont une très mauvaise opinion des partis politiques. Les Français ont une très mauvaise opinion des journalistes, des médias. C'est pas, je veux dire, pour retisser des liens démocratiques et pour faire société, encore une fois, c'est pas en changeant la méthodologie du vote qu'on y arrivera. C'est plus compliqué. Merci l'eau patate. Merci Dounis, merci Vilja, merci Glot, merci Monsieur Frit pour vos resubs, merci pour vos abonnements. À l'opposé aussi, il y a un burn-out militant. Ah mais être militant, c'est pas facile. Hein. Moi j'ai beaucoup de respect pour les militants qui réussissent à le rester militant. C'est très très difficile d'être militant. Surtout dans le marasme politique dans lequel on est. Je trouve qu'il y a du panache à être militant. Il y a un côté contre-culturel. Mauvaise opinion des militants aussi. Comment ça, ils ont des mauvaises opinions, les militants ? À ton avis, ce marasme, il provient de quoi ? Le marasme, il provient en grande partie des inégalités et de l'incapacité à se projeter dans un avenir meilleur pour nos enfants. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça a par contre des prises beaucoup plus prégnantes. Le défi climatique est un défi qui rend effectivement assez morose notre vie politique, parce qu'on a du mal à imaginer un avenir désirable. Donc toutes ces problématiques sont complexes, bien entendu. Et encore une fois, moi je crois pas à la solution technologique qui consiste à changer la méthodologie du vote en se disant bah tiens, ça va repartir, ça ira mieux. Non. C'est beaucoup plus profond que ça, et l'abstentionnisme, le phénomène abstentionniste n'est qu'une partie émergée d'un iceberg beaucoup plus profond de défiance, de crise de la démocratie, qui appelle à des nouvelles méthodologies, à des nouveaux médias, à des nouvelles approches de la politique. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire d'ailleurs sur Twitch, proposer d'autres manières d'aborder le sujet, en ayant parfaitement conscience que, encore une fois, ce n'est pas une solution technologique, et c'est pas moi sur ma petite chaîne Twitch qui, avec mes petits bras, va réussir à régler l'ensemble du problème. Par contre, vous pouvez y participer en donnant à Backseat et en participant au financement de l'émission. Regardez, hop là, on est à 26% de l'objectif de 21 000 euros par mois pour rendre possible une autre émission politique sur Internet, pour permettre, pourquoi pas aux abstentionnistes et aux autres, de s'intéresser à la vie politique. Bref, les amis, il est déjà 16h30. Je vous propose de vous laisser là. Je vais aller me reposer un petit peu. Ce soir, je vais pas aller au Rex Club pour écouter Avamind parce que j'ai pas la santé mentale pour aller clubber en ce moment. Donc il me reste simplement à vous remercier d'avoir été là. Merci d'avoir été là pour ce stream. On se retrouve demain pour Backseat. Donc je vous rappelle, demain l'émission Backseat. Nos trois chroniqueurs seront Antoine, Claire et Usul. On recevra en première partie d'émission Jérémy Perrin, qui est le réalisateur et le scénariste de Last Man et de Mars Express. Mars Express qui sort à la fin du mois. Excellent film d'animation. Excellent animé, ouais. Donc Jérémy Perrin sera notre invité dans la première partie. Et dans la deuxième partie, nous recevrons Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Et avant elle, dans les sujets d'actu, on va avoir Raquel Garrido qui a accepté notre invitation. On reçoit donc Raquel Garrido demain dans la partie sujet d'actu, notre petite, petite séquence donc on réserve à une invitée d'actu. Donc voilà. Soyez là demain à partir de 18h30. Participez au financement de l'émission Backseat. On a besoin de vos dons. On a besoin de vos dons sur KissKissBankBank pour continuer à faire cette émission. Donc vous aussi, abonnez-vous à Backseat, rendez possible cette émission en faisant un don mensuel. À partir de 5 balles, vous avez plein, d'éléments qui vous aident, qui vous sont donnés en échange. Bref, rendez-vous sur KissKissBankBank. Merci d'avoir été là. Fin de ce stream. À très bientôt. Salut tout le monde. Bon après-midi.